Hé, hey, rapido! Where is Mo?
Dans l'ascenseur, rythme endiablé.
Yes, we can.
On se comporte en bavard!
J'aime me beurrer la biscotte.
Un prêt en ré!
Ouais, c'est pas faux.
Pop culture.
Et ça, c'est sur Pulpe, votre émission de la pop culture.
Ça fait beaucoup là, non?
Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Pulpe, votre émission de pop culture. Je suis Gwenvel et je suis accompagné de mes acolytes Titouan et Justin. Comment ça va les gars cette semaine?
Bah très bien, écoute, encore une nouvelle semaine de confinement. Et puis aujourd'hui en plus c'est le jour où on se pète la panse avec ma copine, du coup c'est cool.
Ouais.
Oh ouais, sinon ouais, ça va bien aussi. Prêt pour cette nouvelle émission.
Nouvelle émission, bien évidemment, de qualité, on ne l'oublie pas. Alors, au sommaire de cette émission, il y aura la chronique Incredibilis, que vous avez déjà pu entendre il y a de cela deux semaines sur le ukulélé, présentée par moi-même. Et donc, cette semaine, je vais parler d'un instrument qui est très connu, très répandu. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et ensuite, on partira sur la chronique de Titouan, sur sa chronique « J'aime ou j'aime pas ». Et j'aime pas, pardon. Il va nous parler, alors si je ne m'abuse, d'une chaîne YouTube ou des chaînes YouTube qu'il aime et qui du coup nous recommande. Et ensuite, il va parler alors d'un jeu qu'il n'a pas aimé. Mais pas aimé.
Pas du tout, non.
Voilà, pas du tout. Et ensuite, du coup, on finira sur les sorties de films et les actus de Rennes comme chaque semaine. Bien évidemment, cette émission sera accompagnée de musique de qualité, hein, on ne l'oublie pas, comme toujours. Et donc, nous passons tout de suite à la première chronique, Incredibilis, c'est parti, générique.
Incredibilis!
Et donc aujourd'hui, pour cette chronique Incredibilis, comme je l'ai dit juste avant, je vais parler d'un instrument très connu et très répandu. Les gars, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Alors un indice, c'est un instrument utilisé dans beaucoup de groupes, qui est assez long, il y a du bois et du métal.
Un piano?
Non, mais c'est une bonne idée, mais non.
Peut-être une guitare?
Alors, une guitare, effectivement, bien joué Justin, mais une guitare spécifique.
Bah, électrique ou sèche.
Exactement. Si. Une guitare électrique, du coup, je vais vous parler tout simplement de la guitare électrique. Alors, du coup, la guitare électrique, c'est un instrument électromécanique, hein, du coup, qui est inspiré de la...
Guitare.
Oui, bien ouais, je... qui produit... Effectivement, hein. Et donc qui produit des sons grâce à des capteurs électromagnétiques. Alors, la lutherie de cette guitare, en fait, de la guitare électrique, elle est très différente de celui des instruments basiques à cordes, en fait, des guitares acoustiques, etc. Puisque en fait, il n'est pas nécessaire de transformer efficacement la vibration des cordes en ondes sonores. Donc, on n'a pas besoin d'une caisse de résonance pour faire du bruit, étant donné que tous les sons sont remis au capteur électromagnétique. Et donc le corps de la caisse, il participe cependant à la sonorité finale. En effet, suivant le bois qu'on va utiliser et suivant la manière dont on va faire cette guitare, ça va donner un son un petit peu plus particulier, un petit peu plus grave selon le type de bois utilisé. Donc on va pouvoir plus utiliser dans du jazz, dans du rock, dans du métal, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a des guitares un peu plus chères, voire même extrêmement chères, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors du coup, sur l'histoire de la guitare, en fait, c'est selon André Duchossoir, qui est la première guitare électrique, qui est un prototype qui a été réalisé par Lloyd Lowe. C'est un luthier, en fait, chez Gibson Guitar Corporation, donc... le top du top des guitares en général, hein, les guitares Gibson, c'est une qualité. Et donc en fait, il était muni d'un modèle acoustique avec un capteur électrostatique. Et du coup, Lloyd, il va quitter la firme de Gibson en 1924, et il va poursuivre son développement des instruments à cordes acoustiques et électriques, en fait. Et puis il s'est dit, si je reliais les deux. Et du coup, il va ajouter un capteur électromagnétique sur le bout de la guitare, comme on les connaît à l'heure actuelle, en fait, et ça va donner la guitare électrique. qui l'a produit en 1934. D'ailleurs, la première guitare électrique, je vous conseille d'aller la voir sur internet puisqu'elle n'est pas jolie du tout. Elle est vraiment juste dégueulasse. Mais c'était en 1934, donc c'est pas très grave.
Je pensais que c'était plus récent que ça, tu vois. 34, c'est vrai que c'est vieux. Hein.
C'est vieux, mais au final, moi, ça me surprend pas, tu vois. Genre, puis même dans les musiques qu'on écoute à l'heure actuelle, c'est 1934. Dans les années 20, c'était les petites musiques des années folles et tout là. Forcément que la musique ça allait, tu vois. Donc moi ça me surprend pas qu'il y ait eu une grande évolution des instruments de musique dans ces années là, notamment de la guitare. Alors maintenant je vais vous je me suis dit on va faire un petit jeu, voilà, ça va être sympa, ça va être cool, ça va rajouter de l'ambiance. Je vais vous demander pour vous quelle est la guitare la plus chère au monde.
Je dirais, alors c'est peut-être un souvenir un peu vague, hein, mais bon, qui n'a pas regardé Pomme Star hein, sur la D17. Ce serait pas une guitare de Jimi Hendrix. Genre apparemment c'est
C'est pas une guitare de Jimi Hendrix, mais elle figure dans le classement des guitares les plus chères.
T'entends quoi? T'entends le prix de la guitare, le modèle,
le prix de la guitare.
Le prix de la guitare.
Le prix de la guitare.
Ouais, du coup, c'est pas un modèle.
Et qui l'a eu aussi, si vous avez une idée de qui l'a eu, moi ça m'intéresse aussi, puisque bon, je l'ai, hein, je vais pas vous le cacher.
T'as la guitare mais,
Oui, j'ai la guitare là, elle est à côté.
Je la mets en vente sur eBay d'ailleurs.
Non, je sais pas, mais moi je dirais
dans les... Allez, le prix au moins.
Allez, non, plus. Attends, on parle en dollars ou en euros? En dollars.
En dollars.
Moi je dis au moins 500 000.
C'est pas mal.
Si c'est la plus chère du monde.
Justin, une petite idée.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de guitares, genre vraiment de bonne qualité, qui sont dans les 2000, 2000 et quelques, 2000, 5000, ou un truc plus cher.
J'aime bien.
Ah, 50 000 dollars.
50 000 ? Vous êtes vraiment des petits joueurs, les gars. Vous êtes vraiment des petits joueurs. En effet, puisqu'en fait, c'est la guitare de Kurt Cobain de 1959. Et elle vaut 5 millions de dollars.
Ah oui.
Donc, t'es 50 000, Justin, t'étais loin. Bah,
au moins, elle était toujours dans les 5. Hein.
Mais ouais, elle vaut 5 millions de dollars. Et après, le palier de quoi des Jimi Hendrix et tout, c'est des millions de dollars. En fait. C'est juste ultra cher. Par contre, t'as raison sur les guitares qui sont de bonne qualité et tout, ça vaut dans les 20 000 euros en général.
Ouais, c'est excellente qualité en plus que bonne.
Oui.
Mais les guitares électriques valent plus cher que les guitares sèches? Genre une bonne guitare électrique vaut plus cher qu'une
alors,
guitare sèche?
Alors ça dépend, une bonne guitare électrique, ça dépend en fait.
La qualité
déjà, ça dépend
égale,
si elle a appartenu à une personne célèbre. Et c'est en vrai. En général, les guitares électriques et acoustiques, en vrai, je vais pas le cacher, ça vaut à peu près les mêmes prix. Tu vois, moi j'ai acheté une guitare électrique classique Yamaha et tout, tu vois, j'en ai eu pour 350, tu vois.
Putain, ça
vaut cher. Mais pour moins cher, j'aurais pu avoir une acoustique. Mais en fait, après, si je mets 350 dans une guitare acoustique, je vais avoir un très bon son, tu vois. Mais en même temps, ça demande. Enfin, il y a moins d'électronique, tu vois, dans une guitare acoustique, donc. Mais il y a toujours autant de travail, mais.
Oui, c'est sûr.
Ça dépend en vrai de la marque, hein, tout simplement. Il y a des marques qui vont les faire plus élevées et tout.
Et les guitares électro-acoustiques aussi, en plus. Qui mixent un peu.
Ouais. Ah non, parce qu'apparemment, une guitare, en plus, c'est un travail de fou, apparemment. C'est limite une œuvre d'art chaque fois. Bah, à peu près tous les instruments,
ouais,
mais
c'est
apparemment,
dur à faire.
Les guitares, c'est un truc. C'est un truc de fou.
Alors du coup, petites anecdotes maintenant, les guitares les plus vendues au monde, tout simplement, c'est les Paul Gibson, hein, donc c'est des guitares, alors je sais pas si vous les voyez vous les gars, mais en gros c'est une guitare classique, enfin une guitare électrique pardon, mais qu'on voit partout, toutes les grandes stars ont eu, Elvis, etc, même Johnny, c'est des guitares rondes, électriques, c'est en bois, avec du noir tout autour,
avec un petit, avec un peu de blanc,
ouais. Basique, quoi. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, il y a des guitares qui ont été faites, mais c'est genre insane, j'ai halluciné. Les guitares que moi je vois souvent, c'est des guitares qui ont été faites en résine époxy avec des crayons de couleur.
Ah oui.
Guitare électrique, bien évidemment. Il y en a une guitare où la base, c'est une console NES. Il y a une guitare où la base de la guitare, c'est tout simplement un Faucon Millennium. Voilà, ah oui. Je sais pas comment il fait pour jouer, mais un Faucon Millennium. Alors, il y a des guitares un peu plus hard, en mode la base c'est carrément une AK-47. Voilà, et d'autres où c'est les haches, ou une hache notamment dans The Elder Scrolls. D'accord. Donc voilà, c'est des guitares un petit peu fun.
Ouais, c'est guitare fun. J'imagine que... est-ce que c'est un méga son, je sais pas, mais en tout cas, elle se remarque.
Au niveau acoustique, je suis pas sûr que ce soit le design le plus approprié.
Surtout ces temps-ci. Donc voilà pour les guitares électriques. En tout cas, j'espère que cette chronique vous a plu. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir cet instrument. On va passer tout de suite à la session musique. Et qui dit guitare électrique dit groupe de rock. Donc qui dit groupe de rock dit AC/DC avec la sortie de leur nouvel album cette semaine. Donc c'est parti avec deux nouveaux morceaux de leur nouvel album. Donc Shot in the Dark et Réjection. Bonne écoute à tous. Eh bien, nous sommes de retour sur Pulp, votre émission de pop culture, toujours accompagnée de mes acolytes, pardon. Donc j'espère que ces deux petits morceaux que vous avez écoutés juste avant vous ont plu. Moi personnellement j'ai kiffé. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons parlé juste avant de la chronique Incredibilis où nous avons vu les origines un petit peu de la guitare électronique, de la guitare électrique pardon, et un petit peu des guitares insolites qu'il y a un petit peu dans le milieu. Et maintenant nous allons passer tout de suite à la prochaine chronique. Donc c'est J'aime J'aime Pas, présenté par Titouan. Titouan, je te laisse l'antenne.
Alors oui, alors Light Side, Dark Side, c'est ce que j'aime et ce que j'ai pas aimé récemment. Alors là, je vais vous parler de deux sujets principalement. La première, c'est une chaîne YouTube que j'ai beaucoup aimée. Du YouTuber Candy Goldo. Alors je vous dirai après le générique ce que j'en pense. Et ensuite, on pourra voir une petite analyse. Gentillette de Battlefield 5, le jeu massivement multijoueur que vous connaissez tous. Mais je vous raconte tout ça après le générique.
Light Side.
On the Dark Side. Alors, Light Side. Alors, Candy Goldo, je vais vous en parler. Alors, Candy Goldo. Je pense que voilà, vous ne connaissez pas. Alors en soi, c'est pas une si petite chaîne que ça, hein, c'est une chaîne YouTube, hein, tout le monde connaît YouTube. Alors il a 87,8k d'abonnés, hein, c'est quand même pas mal. Hein.
C'est pas mal.
On a presque 90 000 personnes qui le suivent. C'est une chaîne mais qui est assez vieille, hein. On parle quand même d'un commencement en 2013.
Ah ouais, 2013.
Oui, elle est toujours active. C'est assez vieux et c'est pour ça qu'elle a pas une expansion folle non plus. Hein. Mais c'est pour ça. Je trouve qu'il a ces derniers temps en fait, ces derniers temps c'est assez large. Hein. Ces dernières années, il a beaucoup augmenté le rythme de ses vidéos, je trouve, et la qualité surtout. Mm-hmm. Et franchement, c'est une chaîne que je recommande. Alors son sujet principal c'est Fallout, les Fallout. Hein, que ce soit surtout le 4 et Fallout 4 et Fallout 76 qui sont les deux derniers.
Alors Fallout c'est un jeu vidéo hein, pour rappeler à tout le monde.
Un jeu vidéo se passant dans un univers post-apocalyptique, une dystopie qui se passe dans les années 50. Et c'est un franchement un youtubeur qui est drôle. Moi je le trouve absolument hilarant. Il a un humour assez piquant, assez noir que j'apprécie vraiment. C'est offensant, c'est pas du Squeezie quoi. C'est pas il reste avec toujours un ton assez calme, assez posé.
Ouais.
Et il fait des blagues vraiment qui passent toutes seules. C'est vraiment hilarant. Alors pour s'intéresser, en plus, il fait un peu. C'est beaucoup de Fallout. Alors déjà, il se divise en deux parties surtout. Ça va être d'abord des vidéos lore. Du coup, moi qui adore l'histoire des jeux, etc. Apprendre plus sur les univers. Franchement, ces vidéos lore, elles sont complètes, elles sont intéressantes. Même sur des sujets qui, à premier abord, ne le sont pas forcément. Mais il arrive à t'intéresser au truc. Et franchement, les vidéos lore, c'est mes préférées personnellement. Je les adore. Mais il a aussi une autre partie qui est plus gameplay. Alors là, du coup, ça va surtout tourner sur du Fallout 76.
Ouais, qui est le plus récent.
Qui est plus récent forcément. Et franchement, c'est qui me donnerait presque envie de l'acheter ce jeu. Alors que pourtant, je sais qu'apparemment, pas le meilleur achat que je puisse faire.
C'est pas le meilleur.
Ah non, et il est hilarant puisqu'il a une bande de potes avec qui il joue sur Fallout 76. Et il a même fait du RP, etc. Il fait vraiment tout sur ce jeu.
D'accord.
Et c'est vraiment très agréable à écouter et à regarder. Mais en plus, il se diversifie un peu parce qu'il a fait des vidéos sur d'autres jeux comme Mutant Blade 2. Qui est assez récent aussi, Rainbow Six Siege, La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre, hein, pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux. Et sa dernière vidéo d'ailleurs, c'est même de l'Urbex, alors je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est l'exploration de lieux abandonnés de façon plus ou moins légale, hein, parce que parfois l'Urbex, tu rentres dans des terrains privés.
Même très souvent, mine de rien, c'est vrai que c'est des bâtiments abandonnés ou autre, t'as pas vraiment le droit d'y accéder normalement.
Exactement, interdit au public. Et voilà, et du coup c'est assez diversifié, franchement c'est une vidéo qui me plaise à chaque fois, c'est quelqu'un qui a une super culture, c'est vraiment très très agréable à voir et à écouter. Et je recommande vraiment cette chaîne. Parce que, alors ça s'écrit Q-U-E-N-D-I-G-O-L-D-O, Kendi Goldo. Et je vous conseille d'aller la voir, c'est vraiment, vraiment pour moi une de mes chaînes préférées actuellement. Et c'est une des seules que je suis régulièrement.
Ok. Ok, bah écoute, on ira voir du coup ça pour du coup faire notre propre avis. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être cool.
Ouais, après faut aimer le lore, hein. Faut aimer un peu parfois l'histoire qu'on nous raconte. Hein. Si c'est du Call of que tu recherches, c'est pas forcément la chaîne qui est pour toi.
Eh bien justement, parlant de Call of, de jeu de guerre, dis donc, tu vas pas nous parler d'un jeu de guerre que tu n'as pas aimé ?
Ouais, exactement, des FPS, alors tir première personne, hein, pour ceux qui connaissent pas l'anglicisme. Alors Battlefield 5, sorti 20 novembre 2018, à peu près 2 ans, c'est vrai qu'il est assez vieux, mais c'est le dernier de la série Battlefield, hein, finalement. C'est le, comment dire, la suite, pas directe, mais c'est la suite du Battlefield 1 qui avait très bien marché et écrasé Infinite Warfare à l'époque. Battlefield 1 que j'avais adoré et auquel je joue encore aujourd'hui, hein, alors que ça fait quelques années qu'il est sorti. Et alors, moi, Battlefield 5, j'avais eu des retours pas ouf dessus, mais c'était mitigé. Et du coup, là, je l'ai vu en promo à Micromania, à peine 15€. Je me suis dit, bon, allez, je le prends.
J'ai acheté. Ça vaut le coup.
Et non, franchement, j'ai regretté mes 15€. Je les regrette encore aujourd'hui, mais je les regrette tellement. C'est 10 fois trop cher pour ce jeu. Alors, Battlefield 5, du coup, FPS sur la Seconde Guerre mondiale, hein, qui fait suite du coup à la Première Guerre mondiale de Battlefield 1. Je trouve qu'il est bourré de défauts. Alors, ouais. Battlefield 1, il n'était pas non plus complètement clean. Hein. Il avait des défauts, évidemment. Mais l'essentiel du jeu était vraiment génial, je trouve. Genre, il y avait un équilibre un peu. Un déséquilibre assez visible sur certains points, certaines armes, certaines mécaniques du jeu. Que je trouve, mais qui était jouable, entre guillemets. Et là, je trouve que c'est n'importe quoi sur Battlefield 1. Alors, il y a une liste de défauts. Alors, le premier qui vraiment m'a chagriné, c'est le manque d'immersion. Parce que quand tu joues à Battlefield, la différence des Call of qui sont très très arcades.
Ouais, très arcade, bien plus rapide.
Exactement, c'est que tu cherches une sorte d'immersion et de réalisme. Encore que réalisme, si vraiment tu veux pousser, il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus réalisme.
Oui, carrément.
Mais vraiment l'immersion dans l'action et dans le combat. Et là, je trouve que c'est mal fait. Genre, les maps sont vraiment oubliables. Hein, comparé à celle de Battlefield 1, je trouve que les musiques sont, sans être vulgaire, vraiment nulles, hein, comparé à celle de Battlefield 1. C'est vraiment, là, c'est l'immersion. Franchement, je me suis fait chier sur ce jeu. C'était incroyable. Et parce que les maps, elles sont pas bien gérées, et avec la musique, et avec l'action, genre, tout ça, on dirait qu'on te balance dedans sans réel... alors que Battlefield 1, en fait, il y avait une sorte de script. Genre vraiment quand tu jouais, il y avait une sorte de script qui correspondait à peu près aux actions des joueurs sur le terrain. Ce qu'il n'y a pas, je trouve, ce qui manque terriblement à ce jeu. Et du coup tu t'ennuies, franchement je trouve que tu t'ennuies. De plus l'immersion, elle n'est pas aidée par les graphismes. Parce que encore Battlefield 1 à l'époque, c'était bien. Franchement,
il y a l'excuse de l'âge maintenant un peu.
Et il y a l'excuse de l'âge et en fait tout le reste compense, j'ai envie de dire. Hein, t'en oublies un peu les graphismes qui ont vieilli, ouais, bien qui restent.
Il y a l'immersion, la musique, il y a tout. Voilà. C'est vrai que ça
alors
dessus.
Que là les graphismes,
ils sont claqués au sol.
Bah ils sont pas dans le sens, ils sont un peu meilleurs et à peine, hein, franchement, que Battlefield 1. Mais pour une fin de génération, j'ai envie de dire, comparé à ce qui pouvait sortir comme on a vu avec Jedi Fallen Order ou ce genre de jeu, bah c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf du tout. Je trouve que tout ce qui est lumière et couleur, c'est complètement mal géré comparé à Battlefield 1. Et du coup au niveau des graphismes, t'as même pas peut-être une petite claque visuelle, franchement j'étais déçu. Franchement, quand je suis allé sur le jeu, j'étais déçu des graphismes. Même quand on est sur le menu pour personnaliser sa classe, franchement le visage du perso que tu joues, il est pas ouf. Franchement, même quand ils auraient pu s'attacher aux détails, je dis pas forcément dans la phase de jeu, mais même dans les menus, c'est pas franchement très très beau.
Ah, ils ont peut-être utilisé le même moteur, quoi.
Pour 2018, c'est rare.
Sûrement. Mais du coup, un peu déçu. Hein. Je pensais avoir une plus nette amélioration comparé à Battlefield 1. Et puis pareil, Battlefield 1, le monde,
campagne.
Oui, alors la campagne, ça j'en parlerai plus tard. Mais le mode de jeu que tout le monde adore, c'est que moi personnellement j'aime bien, c'est les grandes opérations, vraiment où l'immersion est totale, les parties sont longues, c'est des parties à 64 joueurs. Et là, j'ai lancé les différents modes de Battlefield 5. Tu t'y retrouves pas, vraiment. T'as le mode percé qui vient essayer d'imiter le mode grande opération de Battlefield 1. Mais qui ça ne marche pas en fait, les maps sont vraiment pas adaptées. Je sais pas comment ils sont pris, mais le gameplay est vraiment pas le même. Et les autres, modes sont vraiment bof. Vraiment, j'ai joué à Conquête aussi, ou à Invasion aérienne. Alors, Invasion aérienne, ça aurait pu être un bon mode, mais manque cruel de maps. Genre, il y en a deux ou trois qui se disputent, c'est horriblement redondant.
Ouais, c'est trop répétitif.
Bah oui, beaucoup trop. Et Conquête, c'est de grandes maps domination, hein, capture de drapeau. Mmh. Et c'est le bordel, hein, tu t'y retrouves pas. Alors les campeurs par contre, ils se font un pur plaisir, hein, parce qu'ils peuvent camper sous tous les cailloux possibles. Mais franchement, vraiment les modes de jeu, pareil, pas au niveau de Battlefield 1, je trouve. Alors en parlant des campeurs, la commu.
Qu'est-ce que déjà les campeurs?
Ah oui, les campeurs, alors vous allez me dire, c'est une façon de jouer comme les autres. Non, ce n'est pas une façon de jouer comme les autres. C'est une façon de jouer de lâche, lâche, on parle d'un jeu vidéo, mais bon, bref.
C'est des grosses tatas, quoi. Hein.
Ouais, voilà, c'est des grosses tatas. Et non, vraiment, les campeurs, en grosso modo, alors que tout le monde essaye de bouger, d'avoir un minimum d'immersion, sinon tu vas sur Call of, quoi. Et eux, ils restent, ils bougent pas et ils te flinguent de l'autre bout de la map sans que tu puisses rien faire. C'est très très frustrant, c'est très très agaçant. C'est très très énervant.
Ah, ils restent sur leurs appuis.
Exactement. Et du coup, ouais, la commu, pareil, elle est pas exceptionnelle. Franchement, beaucoup moins d'entraide. Alors, déjà que les médecins sur Battlefield, sur la franchise, c'est devenu un mème. Hein. Tellement que tu te fais pas aider par les médecins qui sont censés te réanimer quand tu as subi des dégâts ou te soigner. Là, c'est personne s'entraide. C'est vraiment un jeu. Alors que normalement, dans Battlefield, t'es censé y avoir une entraide. Là, il y en a pas du tout. Les gens s'en contrefichent les uns des autres. C'est très très énervant, surtout quand tu sors de Battlefield 1.
Et puis Battlefield 1 qui est un peu plus vieux a gardé un peu son cœur de joueur qui est un peu plus passionné et qui du coup joue beaucoup plus le jeu que Battlefield 5 plus récent qui a repris de nouveaux joueurs qui n'ont pas grand chose à faire du jeu en équipe, quoi.
Eh bien, tu as tort tout en ayant raison. Hein. Dans un sens, ta phrase est complètement correcte, mais je pense, en tout cas le ressenti que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus de joueurs sur Battlefield 1 que sur Battlefield 5, alors que Battlefield 1 est une génération avant. Ouais. Vraiment, le jeu est franchement tellement, je trouve, plus mauvais que Battlefield 1 que finalement, beaucoup de joueurs Battlefield, soit ils sont tournés vers d'autres jeux, soit ils sont retournés sur Battlefield 4 ou Battlefield 1, parce qu'ils sont meilleurs, quoi. C'est, les graphismes, ils passent pas beaucoup moins bien que ceux de Battlefield 5, et techniquement, ils sont meilleurs. Du coup, en fait, sur Battlefield 1, parfois tu prends moins de temps à trouver une partie que sur Battlefield 5 pour moi qui switch de temps en temps entre les deux. Franchement, la différence elle est pas exceptionnelle. Et mais pareil, en plus la commu elle profite des équilibrages plus que douteux de certains éléments dans Battlefield 5. Mm-hmm. Alors faut savoir que dans Battlefield 1, il y a des éléments qui sont pas équilibrés. Une des plus grandes, d'un des plus grands problèmes du jeu, c'est les chars, hein, les tanks, les véhicules en général, qui dans Battlefield 1 étaient considérés comme trop forts. Hein, c'était considéré comme trop fort. Eh bien, ça, ce n'est rien face à Battlefield 5. Ils ont fait mieux. Je pensais pas, hein, mais par exemple, un individu seul à pied contre un tank dans Battlefield 1, il pouvait s'en sortir. Il pouvait même le détruire s'il prenait assez bien. Ce qui est déjà pas mal. Et au pire, à deux, avec un peu de cop, tu pouvais te le faire. Là, c'est n'importe quoi. Je veux dire, tu prends les mecs qui sont là sur le jeu depuis le début. Ils ont un char qui est complètement avec des niveaux extraordinaires. Du coup, il y a un système d'amélioration des véhicules. Du coup, ils sont très forts, ces véhicules. Ouais. Encore plus forts que ceux de base. Alors que sur Battlefield 1, il n'avait pas de système d'amélioration de véhicules. Au moins, tu pouvais...
tu pouvais, comment dire, tu savais ce que t'avais en face. Et du coup ils sont très forts, ils se mettent fond de map, tu peux pas les approcher, et puis ils te flinguent à 15 000 à la ronde, vraiment. Ils ont zéro angle mort, ce qui était pas du tout le cas sur Battlefield 1, qui était, quand t'étais en tank, t'étais bourré d'angle mort, du coup c'était pas trop compliqué d'approcher. Et ça c'était bien, ça rajoutait un peu d'immersion, oui, dans le sens où tu te dis, je vais arriver par le côté, genre celui-là je sais qu'il voit rien quand je passe par derrière, ouais, ou ça, par l'angle gauche. Quoi. Alors que là, bah non, tu te fais bousiller, les gens sont campent absolument, alors... avec des combos d'armes qui sont spécialement faits pour. En plus, sur Battlefield 1, tu pouvais faire. Il y avait 4 classes, oui, si je me trompe pas, comme dans Battlefield 5. Mais par classe, tu avais le droit à 3 combinaisons que tu pouvais interchanger à tout moment. Du coup, en tout, ça donnait un pack de 15 classes finalement. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Battlefield 5. Du coup, les gens utilisent pas des. Comment dire. Des compos de personnages qui sont adaptés à des situations, ce qui pourrait rendre le jeu intéressant, contrairement à Battlefield 1, mais des compos de classe qui sont vraiment axés sur la performance, entre guillemets, pour passer une bonne partie à chaque fois. Mais du coup, tu te retrouves avec des campeurs tout le temps. C'est incroyable. Et puis après, on a des problèmes un peu plus caractéristiques d'Epic Games. Hein, on a déjà les microtransactions qui sont encore plus importantes que sur Battlefield 1. Au moins, ils ont rendu les DLC gratos, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que franchement, le jeu à la sortie c'était vraiment pas ça. Et surtout, truc que j'ai pas compris, entre guillemets, c'est bon, on vous parle Seconde Guerre mondiale, vous dites pas faction jouable, les Anglais. Ok, les Anglais, ils ont eu un rôle, je veux bien. Mais en première faction jouable, vous dites pas, tiens, je vais jouer les Anglais. Non, tu te dis pas ça, non. Les Russes sont complètement absents de ce jeu. D'accord. Déjà, la critique avait été faite à Battlefield 1, à propos des Français et des Russes. Alors que les Russes, finalement, dans la première guerre mondiale, même s'ils ont eu un énorme rôle, hein, je le minimise pas. Mais il était quand même moindre que celui qu'ils ont pris dans la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, c'est sûr.
Battlefield 1, ils avaient rajouté des DLC. Il y avait les Anglais, les Américains, les Français, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens et les Russes. Genre, il y avait tout le monde. Mmh. Là, on a les Américains, les Japonais, les Anglais, les Allemands. Pas de Français, pas de...
D'accord.
Pas de Russes, pas de beaucoup de nations qui ont été exclues finalement de ce jeu. Et franchement, non, vraiment, je trouve que c'est 15€, pas bien investi du tout. Moi, je ne vous conseille pas ce jeu. Si vous l'aimez, tant mieux. Mais moi, je vous invite plutôt à aller jouer aux derniers Call of qui sont très bien, à Battlefield 1 et Battlefield 4 si vous aimez la franchise. Mais fuyez Battlefield 5.
Ok. Bah, en tout cas, merci Titouan pour cette petite histoire de que tu détestes Battlefield 5. Maintenant, on le sait, je ne le recommande pas.
C'est une déception, c'est encore pire.
C'est honteux.
C'est honteux. Ils nous le vendent, ce jeu, ils nous le vendent.
Ok, bah pas de soucis, en tout cas, merci Titouan. Au moins, tu as pu conseiller nos auditeurs. Pour ceux qui hésitaient encore, maintenant, n'hésitez plus, ne l'achetez pas. Bien, du coup, maintenant on va passer tout de suite à la session musique. On va partir avec Rocket 69 de Coney Allen et Red Light d'Eddie Murphy. Bonne écoute à tous!
Rocket 69, Rocket 69.
You left the whole tide, Papa, while I go.
the trip will be fine in my Rocket 69.
Rocket 69, Rocket 69.
Nous sommes de retour sur Pulp, votre émission de pop culture. Alors, nous sommes, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Hein. Comme d'hab, en fin d'émission, on va parler tout simplement des sorties de films sur les plateformes de streaming, ainsi que les actus de Rennes. Alors, pour les sorties de films sur les plateformes de streaming, pour Amazon Prime, je vais vous parler, les gars, de Alien la saga. En effet, Amazon Prime a acheté entre guillemets les droits de diffusion de tous les Aliens pour qu'on puisse les regarder. Moi, je vais pas vous le cacher, je vais avoir la flemme de les regarder.
Ah non, moi, non, c'est pas la flemme.
T'es déjà vu
dans le sens. Surtout que dès qu'il y a dès qu'il y a une entreprise qui rachète des droits comme ça, t'es sûr que t'as une campagne de strike pour les regarder en streaming, ça me saoule.
Ouais, non, oui, c'est sûr. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Alien, la saga s'intéresse à l'affrontement entre l'homme et des créatures de l'espace, hein, qui sont les aliens. Ces créatures survivent en pondant des œufs dans le corps de leurs victimes.
C'est très sympa, ça.
Voilà. Non, c'est pas très sympa, alors. En effet. Pour Disney+, maintenant, je vais vous conseiller un petit film qui s'appelle Allô la Terre, ici Ned. Et donc, en gros, c'est une comédie, hein, puisque en gros, c'est un extraterrestre qui a la peau bleue, qui tient un talk show, en fait, après avoir assimilé la culture de la Terre. Donc voilà, c'est juste un talk show présenté par un extraterrestre, et c'est assez drôle, voilà, je vous le cache pas. Donc si jamais vous avez l'occasion de le voir, eh bien n'hésitez plus, allez-y. Sur Netflix, je vais vous conseiller du coup une série que moi j'ai regardée maintenant, ça fait un petit moment déjà, ça fait quelques mois, qui s'appelle tout simplement Dark, hein, je vous l'ai promis la semaine dernière que j'en parlerai cette semaine, donc je vais en parler. Alors en gros, le synopsis avant de commencer, c'est alors en 2019, le policier Ulrich Nielsen cherche désespérément son fils disparu qui s'appelle Mikkel, âgé de 12 ans. 30 ans plus tôt, en 1986, c'est son petit frère Mads qui avait disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Des événements se déroulant en 1953, 1986 et 2019 sont étroitement liés. Et donc en gros, la série va nous faire voyager dans plusieurs temporalités dans une même ville, en Allemagne. C'est une série allemande. Et en gros, on va voyager de 2019, 1986, 1953, voire même 1800 et quelques. Puisqu'en fait, il va y avoir des liens qui vont être créés. Puisque ça va jouer sur le passé et le présent, et finalement quand on regarde la série, en fait on est attends, mais lui c'est le père, mais attends, mais lui ça veut dire qu'il sort avec sa cousine, non mais what, genre
ah,
vraiment
ça le main
genre vraiment dans cette série t'es attends, mais si, parce que du coup tu remontes petit à petit dans le temps, et des fois dans un même épisode, et du coup t'as plusieurs temporalités, et du coup t'apprends de nouvelles choses, et genre en 1953 deux personnes vont se rencontrer, et en 2019 les petits-fils et ils vont sortir ensemble, tu vois, genre tu vas faire
ah
what,
ouais, faut...
ah, non mais en gros, et du coup en fait mais faut suivre, genre vraiment faut pas se perdre, et même quand tu regardes des tableaux de schémas des personnages sur internet, tu comprends,
c'est n'importe
rien.
Quoi,
mais par contre cette série en vrai elle est juste trop bien, et la
tu
fin,
comprends
elle,
rien
vraiment,
mais elle est vraiment bien parce qu'il y a des cousins qui sortent ensemble et ça c'est cool.
non en vrai tu comprends Alabama. Rien non en vrai tu comprends rien genre à la fin de la saison 1 tu fais ok, d'accord, tu penses avoir compris, à la fin de la saison 2 tu fais ok, j'ai un peu assimilé, au début de la saison 3 tu fais j'ai rien compris, et au final à la fin de la saison 3 tu fais ah ok, finalement j'avais tout compris, mais c'est juste
ouais, c'est des retournements de situation,
c'est comme... des retournements de situation, ouais. Et tout, et en plus c'est une saison, du coup, enfin il y a 3 saisons et c'est fini en fait, il n'y a plus après,
d'accord,
et tant mieux parce qu'il fallait que ça s'arrête là, je pense, mais du coup en vrai c'est vraiment cool, je vous conseille vraiment de regarder, c'est pas très long, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a genre 8 je crois, après c'est des épisodes d'une heure, mais ça se regarde très très vite, surtout franchement t'es pris dedans et t'es là, je veux savoir la suite, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour
Netflix,
et maintenant on passe à la plateforme française Salto. Je vais vous parler de Face to Face. Face to Face en fait c'est un thriller venu du Danemark qui met en scène un père qui tente d'élucider la mort de sa fille qui apparemment se serait suicidée. Mais est-ce que c'est vraiment suicidé ?
Mystère.
Et ça, les mystères sont de mise. Et en effet, on ne sait pas en fait si c'est vraiment suicidé, pardon. Et donc, c'est ce que va mettre son père va faire des recherches pour savoir si c'est vrai.
Du Danemark.
Voilà.
Du coup,
une série où est venue du Danemark. Ouais.
J'en ai pas regardé. Je vous conseille aussi des séries danoises. Hein. Ça va être un peu
Non mais en vrai je suis de plus en plus surpris des séries qui sont pas forcément françaises ni américaines, tu vois.
Oui.
Donc des séries
c'est beaucoup les plateformes
allemandes, russes, Danemark et tout.
Les plateformes de streaming, elles utilisent beaucoup ça, même Netflix, c'est beaucoup de séries espagnoles,
ouais.
Etc. Portugaises,
ouais, c'est vrai.
C'est
ouais.
Assez marrant, je trouve.
Mais sur Salto d'ailleurs, plein de séries étrangères, notamment des séries québécoises, je vous en conseillerais, c'est très drôle les séries québécoises, j'adore, c'est juste trop bien. Donc voilà, ça c'était pour en tout cas les sorties de films sur les plateformes de streaming. Et maintenant je vais vous parler des actus de Rennes. Alors là, la dernière actualité de Rennes que je trouvais intéressante, c'est qu'il y a une nouvelle plateforme pour commander ses repas en fait, hein,
qui a été créé par des livreurs eux-mêmes. Mais vous allez me dire,
oui,
mais pourquoi?
Pourquoi?
Eh bien, bonne question, Justin. En effet, depuis lundi, en fait, il y a une nouvelle plateforme de livraison qui est apparue. Elle se nomme Les Coursiers et elle se dit être une alternative aux géants tels que Deliveroo, Uber Eats ou encore Justit. Cette plateforme a été créée par un collectif de coursiers qui en ont un petit peu ras-le-bol d'être pris pour des pigeons entre guillemets par ces plateformes-là, notamment dans le cadre tarifaire. Puisque des fois ils disaient qu'il fallait attendre 50 minutes juste pour faire une course de 2,50€. Ouais. Et donc en gros, ils revendiquent une livraison à vélo, donc pas de scooter,
pas de voiture en plus.
Puisque pour eux, ça leur semble injuste et illégitime, puisque le concept de base, en fait, c'était à la base
des vélos.
Livreurs à vélo. Quoi. Et ils revendiquent aussi une meilleure rémunération. Avec un coût, en fait, pour chaque livraison, entre 6 et 10 euros. Bah, du coup à la charge du client.
Oui, c'est le prix du plat.
Ce qui est beaucoup plus cher pour que Uber Eats ou quoi que ce soit, qui en général est à 4 euros. Mais en fait, ils expliquent ce coût en disant, je cite, hein, les autres plateformes affichent parfois une livraison à 4 euros, mais elles prennent en plus 30% aux restaurateurs. Fin de citation. Donc eux apparemment ils ne prendraient pas sur l'argent du restaurateur. Et c'est surtout ils disent que la valeur du prix vaut aussi pour le plat. Donc c'est normal. Ils veulent être du coup un petit peu plus transparents sur ça. Pour l'instant ils ne sont que 10 livreurs, mais la démarche pourrait en amener d'autres à les suivre aussi. Donc à voir ce que ça va donner en tout cas.
Ouais, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde en vrai, parce que les gens quand même essayent de dépenser le moins possible, donc rester, ça va être compliqué.
Surtout tu prends un McDo à 14 euros, parce que moi déjà je prends des gros McDo à 14 euros, 10 euros de livraison. Autant que j'y aille tout seul, quoi. Genre,
ouais, c'est clair.
Je suis pas assez feignasse pour juste jeter 10 euros à la fenêtre. Par la fenêtre.
Non, mais carrément, ouais. Mais bon, après, c'est une initiative comme une autre. Hein.
Non, mais c'est bien.
C'est pas facile eux, si pour eux parce qu'il y en a de plus en plus, malheureusement.
Si ça fonctionne, j'ai envie de dire tant mieux
pour
eux.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Faudra pas qu'ils comptent sur moi, quoi.
Oui. Après, en général, les restaurants qui choisissent, là par exemple, c'est le restaurant de cette semaine, ils en avaient qu'un, mais c'était. Le pizzaiolo, le meilleur pizzaiolo de France.
Ah oui.
C'est des restaurants qui sont un peu plus.
Ah oui, oui. Ah oui,
c'est pas un McDo, tu vois.
Oui, c'est vrai, d'accord.
Ouais. Donc voilà. Après, à voir ce que ça va donner. Et puis, on verra par la suite hein, si ça fonctionne toujours. En tout cas, du coup, voilà, c'était les actus de Rennes. Du coup, c'est une fin d'émission. J'espère que, en tout cas, cette émission vous a plu. Vous avez pu découvrir de nouvelles choses. En tout cas, du coup, merci les gars d'avoir animé cette émission avec moi et de vos chroniques.
Bah de rien, merci.
Bah de rien,
Et du coup, bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis on finit bien évidemment toujours sur une note musicale avec Carl S. von den Mut Everest, qui est une musique allemande. Et Fumeo a tu mama de Bad Bunny. Qui est une musique espagnole pour un petit peu voyager. Et donc moi je vous laisse sur ces deux musiques et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, salut les gars.
Salut.
À la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.
Salut.
Schon mach die Wäsche besser jetzt. Yeah. Schwächst du fest, weil du nicht weißt, wo du hergekommen bist. Reiß dich mal zusammen, reiß dich mal am Riemen. Laber mir keine Scheiße von wegen, du willst verdienen. Und überleg dir ganz genau, was du mir sagst. Wenn du mir unter die Schau trittst, dann eins ist klar. Du hast nicht geleistet, außer schöne Bubi-Fresche. Du musst hascheln jetzt. Ich bin kein schon im Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg. Hey, yeah. Ich bin kein schon im Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg. Hey, yeah.
Scheiß. Überleg dir ganz genau, was du mir sagst, weil andere Mal ist schon nicht der Harnschall. Ich pack dir an den Kragen und ich sag, hey, hey, du verlierst völlig deine Fokus. 109.000 in UK, Hokus Pokus. Ich spring grad auf 180 und ich weiß, wenn ich die seh, prügel ich dich windelweich. Ich bin Kalash und im Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg, hey, hey. Ich bin Kalash und im Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg, hey, hey.
Alguien que te haga feliz.